Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la curiosité. Ça va Sidonie ?
Ça va très bien Thomas, bonsoir à tous.
Alors on est ensemble jusqu'à 22h. On va découvrir des destins, des histoires fascinantes. On va aussi apprendre des choses incroyables.
Ah oui, comme hier soir où notre consultant en histoire, Pierre Baron, nous racontait la vie des courtisans à Versailles. Les courtisans qui avaient le privilège d'assister à tous les moments de la vie de Louis XIV, mais vraiment tous les moments.
Ces gens assistent chaque matin, comment dirais-je, à la défécation du roi. Les gens qui assistent à ça, ils payent pour le spectacle, si j'ose dire. Ils payent assez cher. Ce sont ce qu'on appelle les détenteurs d'un brevet d'affaires. Les détenteurs de ce brevet obtenaient le droit de voir Louis XIV sur sa chaise percée, quoi, sur sa chaise d'affaires, sur le trône, comme on dirait aujourd'hui.
Tout a changé, Thomas.
Ben oui, on ne paye pas pour voir la reine d'Angleterre. Non. En tout cas, c'était un des meilleurs moments de l'émission.
Ni président de la République.
Hier, il y en aura d'autres dans cette émission aujourd'hui. Tiens, au menu, foufou, solofiche, mille rouge et banane plantain. Quelles sont les traditions culinaires africaines? Comment cette cuisine s'est enrichie au fil de l'histoire? En quoi l'Afrique est une map monde gourmande? On répondra à toutes vos questions. Vous pouvez réagir. Il y a Sarah qui attend vos appels au 3210 sur RTL.fr ou alors sur les réseaux sociaux avec le mot dièse, la curiosité RTL.
Et vous allez découvrir aussi ces hommes et ces femmes dont vous n'avez sans doute jamais entendu le nom et pourtant ils ont changé l'histoire. Qui est cette jeune femme qui a aidé à construire l'Europe à sa manière dans l'ombre des plus grands hommes du XXe siècle? Comment un cycliste anglais a profondément bouleversé le Tour de France? Et qui est ce danseur juif qui tuait des nazis?
Allez, tout de suite, on part en expédition pour voir comment l'homme peut s'adapter au climat
et la femme
plus extrême. Et la femme.
RTL. L'idée, c'est de voir si le cerveau humain est capable de s'adapter aux situations changeantes. Et pour ça, j'ai choisi d'aller dans les situations les pires, les plus complexes. Parce que finalement, quand on pousse à l'extrême une situation, on trouvera toujours des solutions pour les situations les plus simples.
Je m'en irai courir dans le paradis blanc.
Et c'est vrai qu'à des moments où la solitude vous pèse forcément. Et là, on parle à son chapeau, on parle à son bâton, on parle aux arbres. Et à la fin, ils en ont marre d'ailleurs.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Comment survivre dans les conditions les plus extrêmes? Le froid, la chaleur, l'humidité, la sécheresse? Se poser la question, c'est bien, mais pour trouver la réponse, notre invité est parti explorer les zones parmi les plus hostiles de la planète. Bonsoir Christian Clot.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes explorateur, conférencier, écrivain. Vous avez été suivi par des scientifiques lors de votre dernière expédition ces 8 derniers mois. Alors on va parler de la plus récente. Vous rentrez d'où et quelles conditions climatiques avez-vous affrontées?
Alors j'arrive là il y a à peine quelques jours de Sibérie orientale, dans les monts Verkhoyansk, qui est le second endroit le plus froid reconnu de la planète, puisqu'il est mesuré. Il y a peut-être d'autres endroits plus froids qui ne sont pas mesurés. On parle là de moins 60 degrés, moins 55 degrés la journée, moins 60 la nuit. Donc on a en permanence cette notion de zone glacée dans lesquelles il faut survivre et s'adapter.
Vous y avez passé combien de temps et dans quelles conditions?
Alors j'ai passé une trentaine de jours dans ces conditions, entièrement seul, sans communication avec l'extérieur. Ça c'est le principe de l'expédition d'adaptation, des milieux extrêmes. Un homme actuellement seul, et puis on verra l'année prochaine en groupe, et puis aucune communication pour ne pas avoir cette tentation d'effet bouton pour arrêter l'expérience si les choses ne vont pas bien. Donc 30 jours comme ça, c'est intense et ça demande d'avoir pas mal de choses à se dire à soi-même.
Mais d'ailleurs, vous êtes content de parler non pas à un chapeau ce soir, mais à deux humains?
J'aime bien un chapeau,
et aux
moi.
Aux auditeurs RTL.
J'aime bien.
Ah bon?
Non, je suis très heureux de vous voir, évidemment.
Nous aussi, Christian Clot, vous venez de boucler votre quatrième expédition dans des conditions les plus extrêmes et vous partagez aussi votre expérience plus globale dans un livre publié chez Glénat Jeunesse. Vous étiez allé où auparavant?
Alors dans cette expédition-là, c'est 4 milieux extrêmes. Donc j'étais dans le désert du Dashtelout en Iran il y a quelques mois. J'ai continué dans les canaux marins de Patagonie et puis ensuite dans la grande forêt d'Amazonie pour terminer justement en Sibérie. Donc vraiment 4 climats totalement opposés mais à chaque fois particulièrement extrêmes.
Et ça, c'est une première mondiale d'aller comme ça à la découverte de 4 climats différents et de mettre votre corps et votre cœur et votre cerveau.
Alors c'est la méthodologie qui a fait une première, dans le sens qu'évidemment dans ces milieux il y a déjà des gens qui sont allés. Moi ce qui est très novateur c'est ce côté d'avoir successivement été dans les 4 milieux, d'y être allé tout seul sans communication et d'avoir mené volontairement des études scientifiques sur la capacité humaine de s'y adapter. Ça c'est vraiment très novateur, surtout l'étude principale qui sont l'étude cognitive, à savoir la modification physiologique de notre cerveau durant ces expéditions.
Vous savez Christian Clot, souvent entre nous on joue, on se dit mais toi tu préfères avoir tout le temps très chaud ou tout le temps très froid? Vous avez la réponse ?
C'est chacun qui a son idée. Ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'on est dans les milieux, c'est là qu'on commence à réaliser la vraie difficulté. Et finalement, c'est pas forcément ce qu'on craint le plus. Moi, j'avais beaucoup de craintes par rapport à la forêt tropicale amazonienne que je connaissais moins. Cette chaleur humide me faisait très peur. Et j'avais une grande confiance en moi sur l'aspect froid sec que j'allais rencontrer en Sibérie, puisque je connaissais mieux le froid. Et ben, finalement, je n'ai quand même bien bavé dans le froid et ça a été le plus dur physiquement.
Ouais, et on peut suivre cette expédition sur un site internet adaptationexp.com. Voilà, et on y voit notamment comment les scientifiques vous entourent. C'est-à-dire, vous avez quoi ? Vous avez des capteurs, vous avez des produits à prendre pendant, par exemple, ces 30 jours-là en Sibérie ?
Ouais, j'ai plein de dopages, des seringues et tout. Ah non, fallait pas le dire, pardon. Excusez-moi, les copains. Non, alors, le programme d'adaptation que j'ai voulu, que j'ai commencé à monter il y a plusieurs années, à regrouper plusieurs laboratoires, plusieurs scientifiques. On étudie l'ensemble du corps humain, donc par des, par exemple des gélules que j'avale qui vont donner la température corporelle, des systèmes qui vont mesurer mon rythme cardiaque, ma physiologie cognitive. Mais il y a toute une partie aussi qui se fait en laboratoire entre chaque milieu, puisqu'il y a des outils qu'on peut pas emmener sur le terrain, comme les IRM. Et là, on cartographie, entre guillemets, mon cerveau avant le départ de chaque expé, au retour de chaque expé, et on regarde, on va l'étudier petit à petit, la différence qu'il peut y avoir entre ces deux moments et comment on a modifié, encore une fois, physiologiquement, par la création, par exemple, de connexions ou de neurones, le cerveau. Et ça, c'est vraiment novateur. Si on arrive à le montrer, on aura fait un grand pas en avant.
Alors, on va expliquer aussi pourquoi vous êtes lancé dans ce défi. Ça peut nous servir à tous, vous allez comprendre. Tiens, par exemple, en partant se balader dans un désert au sud-est de l'Iran, 70 degrés, la sécheresse absolue. Et alors, il y a aussi une police secrète, pas toujours commode. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Confronter son corps aux milieux les plus hostiles de la planète, c'est le défi que notre invité Christian Clos, avec un but scientifique, étudier comment nous pouvons nous adapter à un avenir incertain. C'est ce défi que vous êtes lancé, Christian Clos. Vous revenez d'une quatrième expédition. Vous, votre truc, c'est d'essayer quatre climats les plus extrêmes et de voir ce que ça fait sur votre cerveau. Alors là, vous êtes revenu de votre quatrième expédition. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau ? Est-ce qu'il a changé définitivement après ces expériences ?
Alors, il a sans doute changé, définitivement, sans doute pas, mais on le saura seulement dans quelques mois, puisque maintenant, les équipes d'Étienne Quéclin, du laboratoire des neurosciences cognitives, qui travaillent spécifiquement sur cet aspect-là, la science cognitive, vont avoir pas mal de boulot à analyser les 18 IRM que j'ai passés au fur et à mesure des expéditions. Il y a un gros boulot là-dessus. Ce qui est certain, c'est que le cerveau, il continue de se modifier toute sa vie, hein, même très tard dans son parcours, et que c'est les expériences qu'on vit qui va impliquer ces modifications.
Donc, ça veut dire qu'il se muscle, par exemple, des zones qui s'épaississent.
Alors, il y a potentiellement, notamment, nous, on travaille beaucoup sur les lobes préfrontaux, hein, là où la décision, ce qui fait vraiment l'humain quelque part. Oui, au fur et à mesure des expériences, on va muscler certaines parties, hein, vulgairement. On va créer des nouvelles connexions, des nouveaux synapses, des nouveaux neurones peut-être. Et puis, il y a d'autres zones, si on arrête de les utiliser complètement, pour une raison ou pour une autre, bah, petit à petit, elles vont s'atrophier et puis devenir incapables d'être utilisées. Donc, toute la question qu'on a aujourd'hui, c'est face à cette adaptation qu'on a en nécessité en nous, qu'on va devoir mettre en œuvre pour les années à venir. Notre monde change, notre système change, on va devoir s'y adapter. Et bien finalement, quelles sont nos capacités adaptatives ?
Mais c'est ça, je voudrais insister là-dessus. En quoi ça peut nous être utile ou ça va nous être utile, l'expérience que vous menez et que vous allez continuer de mener dans les prochains mois ?
Alors, pour plein de choses. D'abord, parce que ces systèmes climatiques sont d'abord des systèmes de crise. Quand j'entre dans un endroit comme l'Iran à plus de 60 degrés, je suis soumis à quelque chose que je ne contrôle pas et qui me perturbe tellement que je ne suis pas capable d'avoir immédiatement des solutions. C'est ce que vit une personne qui vit une crise dans la vie de tous les jours. Face à quelque chose qui lui arrive, qu'il ne maîtrise pas, sur laquelle il n'a pas de capacité de modification, il va devoir chercher en lui une adaptation sans avoir forcément les clés immédiates. Donc il va devoir construire quelque chose, peut-être en allant chercher quelques notions par-ci par-là dans le cerveau, puis il va construire petit à petit un nouveau savoir. Mmh. Et ben c'est ce qu'on essaie de mieux comprendre. Si on arrive à mieux le comprendre en se mettant dans ce stress test que sont finalement ces milieux, on pourra peut-être mieux aider les gens à se former, à être prêts face à des situations.
Donc par exemple de bouleversements climatiques, mais pas seulement, ça peut être n'importe quelle situation de stress.
Moi je pense que ça peut être n'importe quelle situation. Mon expérience au fil des 20 ans d'expédition puis d'études de pas mal de cas de systèmes de crise me montre que finalement la raison de la crise n'est pas forcément importante. Elle est simplement un système qui nous provoque des situations où on se sent en déficit de capacité par rapport à cette nouvelle situation. Et si on n'a pas en nous des nouvelles choses qui pourront nous permettre de mieux résister, on ne saura pas le faire.
Vous avez évoqué ce fameux désert iranien. je vous laisse prononcer le nom parce que...
Le Dachtelout.
Voilà, je vous fais confiance pour ça. Vous pouvez nous décrire les lieux et puis le ressenti quand vous êtes là-bas?
Alors c'est un désert le plus chaud du monde actuellement, ça fait 10 ans qu'il est mesuré comme étant le plus chaud du monde, donc on parle de température aérienne de 60 degrés, au sol de 70, la sensation est terrifiante. C'est un désert en plusieurs endroits, il y a des immenses plateaux totalement vides, et puis il y a des endroits où il y a des montagnes avec des systèmes de transformation hydroéolienne, donc c'est un endroit absolument splendide, comme beaucoup de déserts, mais forcément extrêmement hostile. Il faut essayer d'imaginer ce que se représente 60 degrés avec par exemple 40, 50, 60 km/h de vent, on a l'impression d'avoir un sèche-cheveux sur la figure en permanence. En plus, le vent est suffisamment fort pour déplacer des petits cailloux. Donc, moi, je me faisais battre de petits cailloux. Donc, c'est un endroit.
Un bombardement permanent, quoi.
Bombardement permanent, ouais. C'est un endroit où, à la base, moi, quand je rentre dedans, je n'ai aucune connaissance de comment faire face à cette situation qui me fait mal.
Et vous êtes simplement. Habillé comment, pour imaginer? Vous êtes protégé comment?
Habillé, voyons.
Vous êtes nu?
Non,
je ne sais pas.
Sidonie, tout de suite.
Ah, voilà, je suis très open.
Non, j'ai senti l'intérêt. Non, alors évidemment, je suis habillé avec des vêtements...
Les explorateurs ont tous les droits.
Je suis habillé avec des vêtements très légers et néanmoins qui me protègent. Le rayonnement solaire peut être terrifiant et pourtant, j'ai découvert là-bas quelque chose d'étonnant, c'est que je n'ai pas bronzé du tout, même sur les mains qui étaient toujours découvertes.
Ah,
il y a un phénomène que aujourd'hui, je ne peux pas expliquer, et je pense que les géologues pourront le faire, qui fait que le rayonnement solaire n'a pas d'impact direct sur la peau.
Mais il y a des heures dans la journée où vous ne pouviez rien faire tellement il faisait chaud?
À partir de 9h30, 10h du matin, la chaleur devenait telle qu'il fallait que je commence à m'arrêter. Je montais une sorte de camp avec un système d'abri pour avoir de l'ombre. Et pendant les premiers jours, par exemple les 5-6 premiers jours, je m'allongeais, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, y compris lire, mais c'était impossible. J'étais tellement en douleur, perturbé par ce milieu, que je ne pouvais rien faire. Et puis, à partir de 5h, 5h30 de l'après-midi, la température commence lentement à redescendre. Et on attend ce moment avec impatience, dans un sens, parce que d'abord, c'est le coucher du soleil, c'est toujours très beau. Mais ça veut dire aussi, pendant quelques heures, une température qui descend à 28 degrés. Et 28 degrés, c'est le paradis pour moi.
Évidemment, oui.
Après la sécheresse, c'est le froid humide qui nous attend, qui vous attend, les tempêtes, à bord d'un canoë ballotté sur des canaux marins, au niveau des 50e hurlants. Bienvenue en Patagonie. A tout de suite, les curieux, sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
RTL.
L'été sera chaud, l'été sera chaud.
Quand il n'y a plus de pluie, la source se tarit, se taisent les ruisseaux, dans le puits il n'y a plus d'eau.
La curiosité est un vilain défaut.
Oh,
jusqu'à 22h.
Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un message, est-ce un cri du ciel?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La chaleur, la sécheresse, la pluie chantée par Eric Chardin, Gérard Cailleux, oui dire, ça pourrait faire la bande originale de notre invité Christian Clos. Est-ce que vous aviez de la musique, tiens, pendant ces expéditions extrêmes? Est-ce que vous marchiez avec de la musique dans les oreilles?
Alors j'en avais avec moi, je l'ai très rarement utilisé parce qu'en fait j'avais besoin tellement de me concentrer par rapport aux situations que je vivais que finalement je ne pouvais pas tellement me laisser envahir par la musique. Mmh. Musique qui, au demeurant, on le sait, est très prenante pour le cerveau et peut nous emmener dans des mondes parallèles qui peuvent me mettre en danger si je quitte la réalité de ce que je vis.
Oui, parce qu'on rappelle, pour ceux qui nous rejoignent éventuellement sur RTL, dans la curiosité, que votre défi, c'était de confronter votre corps et votre cerveau aux milieux les plus hostiles de la planète, voir la capacité d'adaptation, de prise de décision, comment vos muscles ont pu réagir par moins 70 degrés d'un côté, plus 70 degrés de l'autre, ou alors ces canaux marins de Patagonie, où vous êtes rendu également. Alors, ça ressemble à quoi, ça?
Alors, c'est un des endroits les plus intéressants, je dirais, de la planète, parce que d'abord, c'est un endroit encore très vierge. On est dans des canaux creusés au fil des siècles. C'est le plus grand labyrinthe de canaux marins connus. On parle de plusieurs milliers de kilomètres de canaux qui s'entrelacent avec des systèmes de montagnes, des glaciers qui tombent de ces montagnes qui vont jusqu'à l'eau. Autour de ces glaciers, des forêts primaires quasiment impénétrables. Et puis, au milieu de ça, ces canaux sur lesquels les courants peuvent être très variés. On peut avoir dans le même canal 3-4 courants différents qui s'entrechoquent et se croisent, donc on ne sait jamais vraiment comment ça va aller. Et puis des vents qui peuvent aller jusqu'à 200-250 km/h. Moi j'ai eu heureusement seulement jusqu'à 130 km/h, mais 130 km/h ça vous jette quand même du kayak, quoi.
Et des vents qui sont quasiment ininterrompus, c'est ça? Sur les 30 jours de cette expédition, il y a eu combien de jours de vent?
J'ai eu quasiment 28 jours de vent, dont 12 jours qu'on peut catégoriser de début de tempête, puisque c'est plus de 100 km/h. C'est des conditions qui sont complexes, mais surtout imprévisibles. On ne sait jamais quand va accélérer le vent, quand il va tomber et quand il y aura un courant. Donc on se fait souvent avoir par rapport à ça.
Christian Clos, vous racontez dans ce livre « Moi, explorateur » chez Glénat Genèse, toute votre vie, la passion de l'exploration, et puis aussi des expéditions dans lesquelles vous avez frôlé la mort. Il y en a une qui ressemble un petit peu à ce climat de froid, d'humidité. C'était en terre de feu, donc on est à l'extrême sud du continent sud-américain.
On est un tout petit peu plus bas que j'étais en Patagonie cette fois-là. Oui.
Et là, vous êtes en repérage sur un zodiaque. Qu'est-ce qui vous arrive? On est en octobre 2006.
Alors là, j'ai exactement ce qui est cette notion de versatilité des vents, c'est-à-dire que je suis sur un zodiaque, et puis au moment où je reviens vers mon camp, j'ai ce qu'on appelle un Willy Woo qui passe, c'est un vent coup de poing qui passe à plus de 200 km/h et qui littéralement renverse mon kayak, le retourne, et moi je me retrouve à l'eau, en ciré de marin, dans une eau à 2 degrés puisque je suis dans un fjord glaciaire, donc une eau très froide, avec mon zodiaque, parce que c'est toujours pareil, on met pas son coupe-circuit dans ces cas-là parce qu'on est un peu pressé et tout, avec mon zodiaque qui est parti un bout, et je me retrouve donc dans une eau où on nous a toujours dit, on m'a toujours appris que dans ce genre d'eau-là, on vit 5 minutes. Donc quand je tombe à l'eau, je me dis, j'ai 5 minutes de vie et j'ai mon kayak qui a plusieurs centaines de mètres mon zodiaque a plusieurs centaines de mètres de moi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là le danger potentiel aussi de ces choses qu'on entend. À la fois, elles nous aident parce qu'elles nous permettent de nous concentrer, mais des fois aussi, elles nous font qu'on se met à paniquer alors que finalement, on doit d'abord réagir à la situation. Quelles que soient les choses qu'on a apprises, il faut créer une nouvelle fonction, une nouvelle capacité.
Qu'est-ce que vous avez inventé alors là, Christian Clos? Vous aviez 5 minutes pour sauver votre peau.
Mais je ne sais pas vraiment en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que je me suis mis à nager, forcément, à nager pour rejoindre mon zodiaque. Et puis, à un moment donné, j'étais tellement fatigué que j'ai réussi à rejoindre mon zodiaque, mais j'arrivais pas à monter dessus. Et là, j'ai quasiment perdu conscience. C'est plusieurs mois plus tard que je vais réaliser ce qui s'est passé, puisque je me suis en réalité réveillé dans mon camp à la plage, sans avoir aucune idée de ce qui s'est passé entre le moment où je suis monté, où j'étais dans l'eau et à cette plage. Alors on imagine tout, un dauphin qui est venu me chercher, plein de choses.
Un dieu.
Quelque chose. En réalité, ben voilà, à ce moment où je perds des pieds, j'ai un geste que je faisais quand j'étais enfant, je faisais du cheval d'arçon, je m'entraînais à ça, qui est revenu tout naturellement, qui m'a permis de remonter dans mon zodiaque. Et puis il y a cette fameuse force qu'on a mentale, qui nous permet de vivre quelque chose, mais qu'on va oublier pratiquement totalement pour ne pas que cette situation ne nous fasse pas de mal, en fait.
On continue d'explorer le monde hostile avec vous, Christian Clos. Tiens, c'est la forêt amazonienne et alors toutes ces bestioles aussi. Il y a beaucoup d'animaux là-bas qui nous attendent sur RTL. Restez avec nous.
Avec RTL, cultivez votre curiosité.
Du courage, il en a fallu à notre invité, l'explorateur Christian Clos. Vous venez de boucler 4 expéditions dans les climats les plus extrêmes, dans les milieux les plus hostiles de la planète. Alors vous nous faites revivre, on a beaucoup de chance, quelques-unes de ces expéditions. Vous êtes allé par exemple en Amazonie en décembre dernier pour y chercher quoi ?
Alors, comme dans tous les autres milieux, pour chercher comment ce type de milieu qui m'est impropre à la base, que je connais mal, face auquel je suis déstabilisé, a un impact sur ma physiologie et sur mon système cognitif.
Un c'était milieu l'humidité. Qui vous faisait très peur. Hein. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, l'humidité.
C'est le milieu
chaude.
Que je connaissais le moins. L'humidité chaude m'embêtait. Puis c'est vrai que c'est aussi ce milieu où on nous raconte tellement de choses. Vous savez, il y a tellement d'histoires sur les animaux, sur les araignées, les serpents, les jaguars. Avant d'y rentrer, tout le monde, y compris les gens locaux, me disent mais personne va tout seul dans la forêt, ça ne se fait pas. Même les militaires locaux me disent, j'ai rencontré un formateur militaire pour quand même avoir quelques notions supplémentaires. Il me dit mais non, ils ont tout fait pour m'en empêcher. Moi, je voulais
partir. Parce que je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, vous partez seul. En autonomie complète pendant un mois.
Voilà, sans aucun système de communication avec l'extérieur.
Avec ça, quel matériel vraiment... quand même vous avez un pactage, vous avez.
Alors oui, donc la nourriture. Le principe n'était pas d'être en survie dans le milieu. Donc au contraire, j'emmenais toute ma nourriture parce qu'il fallait qu'on ait une comparaison aussi pour qu'on puisse comparer entre les 4 milieux. Il fallait que je sois à peu près équilibré sur la nourriture, en tout cas le type de nourriture. Donc j'emmène tout avec moi. Alors en Amazonie, j'avais un sac à dos et j'avais aussi un petit raft de 2 kilos que je pouvais gonfler ou dégonfler pour traverser des rivières, par exemple. Donc ça m'a permis de progresser entre la forêt et les rivières. Dans des forêts très denses. On va lentement en Amazonie, c'est forcément un milieu compliqué pour avancer, mais c'est aussi un milieu qu'il faut savoir observer lentement.
Alors justement, on vous a déconseillé d'y aller dans cette forêt amazonienne, Christian Clos, vous y allez? Est-ce que c'est si insupportable que ça?
Eh ben, paradoxe. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. J'ai même plutôt aimé ce milieu. C'est des 4 milieux celui qui m'a le moins impacté aussi, parce que malgré tout, c'est un milieu. On le sait, il y a des gens qui y vivent, qui ont vécu depuis des millénaires et qui continuent d'y vivre aujourd'hui. Donc, si on peut y vivre, c'est que finalement, il est vivable. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Quant aux animaux, c'est vrai qu'on a cette peur. C'est vrai qu'il y a des insectes partout. Il y a plein de choses. Mais ce qu'on apprend aussi, c'est que ils sont pas là à m'attendre pour me sauter dessus. et que c'est à moi, le vrai danger c'est moi, c'est ma manière d'agir. Si je vais trop vite et que je les surprends, je leur fais peur. Si je pose ma main sans regarder et que je la pose sur un serpent ou sur quelque chose, forcément c'est dangereux. Alors que si je fais attention, si je vais à une vitesse raisonnable, si j'annonce mon arrivée en guillemets en faisant du bruit, eh bien finalement on a assez peu de soucis avec les animaux.
On revient à la concentration dont vous parliez tout à l'heure en fait.
Vigilance.
Vous racontez certaines de vos expéditions précédentes hein, dans ce livre Moi explorateur chez Glénat Jeunesse. Il y en a une qui nous mène, alors on est à l'opposé de l'humidité de l'Amazonie, c'était en plein désert bolivien où là vous avez vraiment souffert de la sécheresse et de la soif, c'est ça?
Oui, c'était ma première expérience de traversée d'un désert, hein, traversée du Salat de Uyuni, donc pas un immense désert, quelques jours de traversée. On n'avait pas pris assez d'eau, on ne s'était pas tout à fait bien préparé, c'était au début de mes aventures. Et on se retrouve avec plus qu'un litre d'eau par jour, dans un endroit où il fait très chaud, très aride. Et petit à petit, j'arrête de boire pour laisser de l'eau à la personne avec qui je traverse. Et je vais soudainement me mettre à m'évanouir à chaque fois que je m'arrête. J'arrive à une déshydratation presque totale. Et qui est effectivement, je vais apprendre la douleur de ce que représente la déshydratation.
Ça veut dire que c'est quoi? C'est des douleurs qui envahissent tout le corps?
C'est-à-dire que l'ensemble de mes muscles, l'ensemble de mon système commence à être douloureux. J'ai plus aucune capacité de nettoyer mon système, donc tous les muscles deviennent douloureux. Ma bouche me met. J'ai goût de fer dans la bouche qui partiront quasiment plus jamais. Voilà, c'est incroyable comme tout se transforme à une vitesse hallucinante face à la déshydratation.
Un goût de fer qui partira pas?
Oui, alors il est toujours. Maintenant, dès que je commence à être un peu déshydraté, j'ai immédiatement ce goût qui me revient dans la bouche. C'est d'ailleurs presque pratique parce que c'est un signal immédiat. Quand je commence à sentir ce goût, je sais que voilà, je suis en train d'arriver à un moment où je vais devoir être très vigilant sur la déshydratation.
Vous nous impressionnez, Christian Clot. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Les auditeurs aussi doivent se dire mais quelle vie? Ça commence comment, une vie d'explorateur? Un voyage, un déclic, une envie, un ennui?
Je crois que ça commence par une vraie curiosité de tout et d'avoir envie de comprendre. Moi, quand j'étais petit, je supportais pas, et ça d'ailleurs était un grand problème à l'école, de ne pas comprendre la raison de quelque chose. Si on me disait c'est comme ça et tout, alors là c'était pire que tout pour moi et c'était vraiment la fin de tout.
Et à 7 ans, il y a un voyage au Canada qui vous bouleverse.
Voilà, j'ai la chance que mes parents m'emmènent au Canada à 7 ans et je réalise l'immensité. Moi j'ai une forêt derrière chez moi, derrière ma maison, et là j'arrive au Canada, tout est démesuré, tout est beaucoup plus grand, c'est fascinant et je découvre tout et j'ai envie d'aller plus loin. Et quand on revient de ce voyage, je sais pas encore comment, je sais pas encore pourquoi, mais je sais déjà que je vais devoir continuer là-dedans.
Et vous avez continué depuis l'âge de 7 ans. Finalement, il y a une expédition. Allez, on va terminer là-dessus. Tiens, à l'âge de 16 ans, rapidement, vous êtes avec un copain au Canada, juste pour parler des animaux, et vous oubliez un tube de
lait condensé. Ouais.
De lait condensé. Qu'est-ce qui se passe?
Et ben, quand on ouvre le matin la tente, on a un ours qui est en train de tranquillement manger ce tube de lait condensé.
C'est de la générosité, quoi.
On était très sympa, lui a laissé un supermarché ouvert. On a refermé la fermeture éclair d'attente, on a attendu, il est reparti gentiment et heureusement.
Je vais planquer ma barre de céréales.
Oui, c'est plus raisonnable. Merci beaucoup, Christian.
Merci Flo. À vous.
Donc il y a le site adaptationexp.com hein, pour poursuivre votre dernière expédition. Et puis ce livre, Moi, Christian Clot, explorateur chez Glénat Jeunesse.
Et puis Facebook pour les actualités au quotidien. Facebook Adaptation by Christian Clot.
Et il y aura des films. Vous avez tourné des images.
J'ai tourné des images. J'avais aussi une équipe qui venait au début de chaque expédition pour tourner des images. On va essayer de faire un beau film avec ça.
Oui. Eh ben super, on attendra ça.
Vous écoutez RTL.